Frédéric Métezeau, votre invité, est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Bonjour Éric Coquerel. On a entendu il y a quelques minutes la chronique politique. Il y a un an, Étienne Jernel du Point voyait François Fillon élu président de la République. Vous, il y a un an, le 26 décembre 2016, vous entrevoyiez quoi? Maintenant, on peut se le dire.
L'élection de Jean-Luc Mélenchon?
Non, réellement,
bien sûr. Oui. Vous savez, nous, on ne part pas une élection pour la perdre. Bon, et les faits ont montré que c'est passé à peu de choses. Donc, c'était une prévision qui était réaliste, crédible. Et d'ailleurs, dommage pour la France qu'elle ne se soit pas réalisée.
Alors, le mouvement des Insoumis, quelques mois, 6 mois après la présidentielle, il en est où? Si l'on suit Mélenchon, vous deviez mettre 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Mais Macron a eu le premier point. Mais désormais, il a mangé son pain blanc et vous auriez mangé votre pain noir. Alors, on en est où?
Bah, écoutez, 1 million de personnes, rappelez-vous que c'était pas Jean-Luc Mélenchon ou France Insoumise seul. On n'avait pas la prétention, après le 23 septembre qui était réussi, on avait mis 150 000 personnes, on savait que seul on ne pouvait pas. On estimait que face à Emmanuel Macron, il fallait montrer qu'il y avait une majorité de Français qui étaient contre ces projets. Je continue à penser que c'est le cas et qu'il fallait le matérialiser. Et la seule manière de le matérialiser, c'était une convergence de tous ensemble. Puisque il y a deux solutions, si vous voulez, pour arrêter un gouvernement et des projets tels que les ordonnances. C'est soit la grève générale, bon, elle n'a pas eu lieu, soit le fait de montrer sa force dans la rue. Dans la Ve République, à chaque fois que des forces d'opposition l'ont réussi, par centaines de milliers, vous remarquerez que les gouvernements ont cédé. Donc il fallait le faire. Nous, on l'a proposé, ça n'a pas été retenu, on le regrette. On se retrouve aujourd'hui avec les ordonnances et le budget le plus inégal, le plus austère de la Ve République.
C'est uniquement la faute aux autres, aux syndicats, au Parti communiste?
Non, c'est une responsabilité collective, mais souffrez que nous estimons que nous avons fait notre part du travail, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les mobilisations de nos groupes d'action, que ce soit en termes de propositions. Bon, après, chacun a estimé la stratégie qui était nécessaire. Je pense que les syndicats ont... Enfin, ceux qui se sont mobilisés, parce que je ne voudrais pas quand même égaliser les responsabilités. Hein. D'abord, il y a ceux qui se sont mobilisés, qui ont tenté, ont voulu jouer l'unité syndicale. Ils ont eu raison de l'essayer. Bon, une fois que l'échec était là, il aurait certainement fallu tenter autre chose. Mais après tout, peut-être que l'année prochaine, la raison l'emportera de nouveau.
Vous nous dites, Éric Coquerel, que les projets d'Emmanuel Macron n'ont pas l'assentiment de la majorité de la population. Alors, vous savez, à France Inter, on n'est pas des maniaques des sondages, mais quand même... Tous les instituts de sondage, sur plusieurs semaines, notent une remontée spectaculaire d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, qui recueillent plus de 50% d'approbation.
Oui, les horoscopes changent, vous avez raison. Mais ça ne veut pas dire pour autant que leurs projets, ce qu'ils font, c'est-à-dire par exemple la casse du code du travail, c'est-à-dire le fait de donner 9 milliards aux plus riches, c'est ça le budget aujourd'hui, hein, qui a été voté, et de baisser de 15,6 milliards les dépenses publiques qui vont concerner tous les Français, d'augmenter la CSG qui va concerner tous les Français, de baisser l'APL, enfin j'en passe, et des meilleurs ou des pires plutôt. Il suffit de se promener dans la rue, de discuter avec les gens pour voir que ce n'est pas populaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je crois que l'emporte aujourd'hui dans le pays l'idée du « mais comment faire ?» Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'opposer à ça? Et que Emmanuel Macron a un avantage par rapport à Hollande, vous voyez, on le reconnaît, c'est qu'il paraît savoir où il va. Bon, et ça, dans la période qui va, ça peut susciter un certain regain de sympathie, j'en doute pas. Mais je crois que tout ça est très fragile. Par exemple, c'est accroché à ce taux de croissance qui remonte un peu, qui n'a aucun rapport avec les politiques appliquées en France, mais tout d'un contexte international, d'une conjoncture, j'allais dire, assez habituelle du capitalisme. Le jour où ça se retourne, parce que malheureusement ça se retournera, il y aura, vous verrez, une crise à nouveau de spéculative, eh bien on verra ce qu'il restera de la politique d'Emmanuel Macron.
Il y a une grande réforme qui va être mise sur la table en 2018, c'est celle de l'assurance chômage. Faut-il élargir l'indemnisation chômage aux salariés qui démissionnent, qui quittent volontairement leur entreprise?
Je crains que sous couvert de cette question, on assiste à la continuité du démantèlement du monde du travail et de l'organisation du travail dans ce pays. Parce que ce dont il est question, c'est en réalité sous couvert de cette protection qui paraît meilleure pour des salariés qui veulent partir, le fait que les salariés seront après obligés d'accepter des emplois, les mêmes emplois mais moins rémunérés au fur et à mesure. Et si c'est le cas, eh bien vous apercevrez que ça provoquera une espèce de dumping interne, une espèce de nivellement vers le bas des salaires.
Et s'ils veulent pas démissionner, ils sont pas obligés de démissionner.
Non, mais vous me citez l'exemple de ceux qui pourraient être amenés à toucher le chômage en démissionnant. Mais aujourd'hui, la plus grande partie des gens, je vous le rappelle, c'est pas cela, c'est le chômage qui existe, les millions de chômeurs qui existent. Et la situation de ces millions de chômeurs, ça sera de contraindre ceux-ci à reprendre le même même emploi, sauf à justement bénéficier de moins d'indemnités. C'est ça dont il discutait. Et si c'est le cas, ça aura non seulement des conséquences pour les chômeurs, avec cette espèce de politique qui laisse penser que le chômage, les responsables du chômage, c'est les chômeurs avant tout, mais ça aura des conséquences aussi pour le monde du travail. Tout est toujours basé sur une politique, que ça soit les ordonnances, que ça soit les questions de budget, c'est de faire en sorte de baisser ce qu'ils, eux, appellent le coût du travail, nous, on pense que c'est le prix du travail, au profit du capital. Bruno Le Maire l'a expliqué, il faut mettre de l'argent dans le capital pour les investissements productifs de demain, les emplois d'après-demain, c'est le Mouchbit dans les années 70, ça fait 30 ans que c'est appliqué, le chômage explose, les investissements baissent et les profits explosent. Ça montre que ça marche pas.
Une autre réforme qui est, comme on dit, dans les tuyaux, et là je m'adresse à l'élu de Seine-Saint-Denis, le préfet d'Île-de-France préconise de supprimer les départements de la petite couronne, dont le vôtre, pour les remplacer par des intercommunalités. Comme on dit, c'est pour alléger le millefeuille. Vous êtes favorable à cette mesure ?
Non, et en nous, on a une logique parce qu'on était défavorable au Grand Paris. Ces idées de grandes mégalopoles libérales, ou avec un hypercentre, et puis... qui au fur et à mesure agrandit ses prérogatives. On pense que ce n'est pas ça la solution. Nous sommes contre la disparition des départements. Nous pensons que c'est un des éléments d'une république égalitaire pour tous, même si maintenant c'est de plus en plus malheureusement un principe plutôt qu'une pratique. Mais nous pensons que la solution n'est pas là. Elle n'est pas dans l'élargissement sans cesse d'un très grand Paris. Donc ça vous étonnera pas que nous contestons cette politique.
C'est pas le moyen justement, ce grand territoire, de faire de la péréquation entre pauvres et riches.
Je crois que ce moyen-là, c'est de faire ce à quoi on assiste de plus en plus, et ce à quoi d'ailleurs, je le crains, pourrait aussi servir les Jeux Olympiques, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est de gentrifier en réalité les départements de la petite couronne et de repousser toujours plus loin les pauvres, les défavorisés, ceux qui mettent des heures pour travailler le matin dans des transports de plus en plus bondés. Je pense que c'est ça le projet.
Dernière question, Éric Coquerel. Hier, le pape François a demandé l'hospitalité pour les migrants. Vous, Éric Coquerel, député France Insoumise, vous souhaitez élargir les critères de droit d'asile, notamment pour les réfugiés climatiques.
Alors malheureusement, j'aurais voulu répondre en détail à ces questions. Il y a deux choses. Un, on assiste au début de migration, j'allais dire presque historique, du fait du climat, du fait du libre-échange économique, du fait des guerres, dont nous avons de larges responsabilités. Il faut régler les causes, c'est absolument indispensable, et nos pays ont une lourde responsabilité pour ça. En attendant, on se doit d'accueillir ceux qui aujourd'hui arrivent sur notre sol, parce que entre un réfugié qui arrive pour fait de guerre ou de dictature et quelqu'un qui arrive pour des questions climatiques, je pense qu'on ne peut pas, nous, cinquième puissance économique au monde, faire le tri. Aujourd'hui, arrêtons les fantasmes, il y a environ 80 000 personnes par an qui arrivent, en plus des migrations régulières, à peu près 200 000, 120 000 personnes qui repartent. On doit pouvoir, on est capable de les assumer, mais c'est vrai que pour l'avenir, il faut régler les causes de ces migrations, parce que les gens ne partent pas par plaisir, ne meurent pas sur la Méditerranée par plaisir, et donc c'est essentiel de s'occuper de ça, sinon il faudra en assumer les conséquences.
Et on peut rappeler également que l'Assemblée nationale étudiera le texte Collomb qui doit réformer normalement
un texte inquiétant,
la réglementation pour le droit d'asile. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, merci d'être venu sur Inter.